Vous écoutez RTL.
Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Merci d'écouter le podcast des Grosses Têtes. Grâce à vous, nous sommes le premier podcast de France. Dorénavant, l'émission sera divisée en deux podcasts chaque jour, pour deux fois plus de rire, évidemment. Merci pour votre fidélité et bonne écoute.
Les auditeurs jouent avec les Grosses Têtes sur RTL.
Et j'ai crié Aline, Aline au téléphone. Bonjour Aline.
Bonjour Laurent, bonjour les Grosses Têtes.
À Saint-Georges-sur-Loire, dans
oui,
le Maine-et-Loire.
Oui, c'est ça.
Chez Roselyne, vous connaissez Roselyne Bachelot ?
Oui, bien sûr.
Vous l'avez vu passer dans le coin parfois à Saint-Georges ?
Ah, non, j'ai pas eu l'occasion d'avoir passé dans le coin.
Bah, c'était pas
vous avez voté pour elle ?
Mais non.
Non.
Mais
exagérons
ça, bien.
Non, elle s'est pas présentée dans notre.
Voilà,
dans
notre voilà.
Sinon, vous auriez voté pour elle.
Évidemment.
Bah, bien sûr.
Mais bien bravo. Sûr, Aline. Bien sûr. C'est une question cinéma, évidemment, aujourd'hui, mercredi. Vous avez révisé,
d'accord.
Aline.
C'est parti.
Alors, évidemment, on ne va pas faire une question sur Star Wars. On
oh,
a déjà
quand même.
Ah, bah non, suffisamment parlé. Il y a d'autres films étrangers, d'ailleurs, qui sortent aujourd'hui. Il n'y a pas que des films français. On a beaucoup parlé aussi, évidemment, du film de Valérie Donzelli cette semaine. Mais il y a aussi un film, quand même, avec deux gardiens de phare. Un film avec une ambiance, paraît-il, assez particulière. Un phare dans la brume. Ça s'appelle The Lighthouse, un film d'horreur à l'ancienne, oh. En noir et blanc, qui sort aujourd'hui.
Oui.
C'est un film d'horreur américano-canadien.
D'accord.
Et il y a un des acteurs, c'est Willem Dafoe, qui est un vieux loup de mer, aussi acariâtre que pétomane, nous dit-on, ce qui, dans un phare, doit être embêtant pour son partenaire. Mais c'est comme ça, il est pétomane. Et l'autre gardien de phare est un peu plus jeune. Quel est l'acteur qui joue le jeune gardien de phare ?
C'est Robert Pattinson.
Et oui. C'est gagné !
Bravo.
Il est passé de Twilight au gardien de phare. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, paraît-il, ce film d'horreur entre un vieux loup de mer pétomane et un jeune gardien de phare qui commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, vous voyez. Remarquez, bon, il paraît qu'on s'ennuie un peu à la fin du film aussi.
Quand il pète plus. Ça manque de dialogue à ce moment-là. Ça s'appelle pas la soupe aux choux, votre truc, maintenant ?
Vous en fichez, vous, Aline. L'essentiel, c'est que vous ayez gagné, n'est-ce
exactement,
pas ?
Exactement, tout à fait.
Alors, on et vous puis... applaudit. Oui, allez-y, vous voulez dire quelque
oui,
chose.
J'ai mon fils, il voulait passer un petit bonjour. Alors,
bah, allez-y, passe. Allez-y pour le fiston. C'est
bonjour aux supporters d'Angesco.
Voilà, il passe le bonjour à les tous supporters d'Angesco. Oh, il doit bien connaître.
Mais oui, c'est vrai qu'Angers, il se débrouille pas mal dans le championnat en Ligue 1 en ce
oh,
moment.
Ah, bah, bonjour. Ça va. Eh ben, comment tu t'appelles ?
Oh, on dirait pas la cloche, dis donc.
J'ai 7 ans.
T'as 7 ans et tu soutiens le SCO d'Angers ?
Oui.
C'est Mémé Bachelot qui te parle.
Et papy ma bille.
Aline, en tout cas, bravo, vous avez gagné. On vous embrasse très fort. Et j'ai une autre question, d'ailleurs. À propos des phares, pouvez-vous me dire quel est et où se situe le plus haut phare du monde ?
Oh, c'est Cordoue.
En Bretagne ?
Au large de l'Écosse ?
Il est effectivement en Bretagne. Il est, alors, si vous me trouvez...
C'est pas frère.
À côté de Roscoff ? À côté de Roscoff ?
À côté de Roscoff,
Finistère ?
Il est dans le Finistère.
Bah, il est à
Brest.
Et c'est le phare.
Le phare de Kérouan ?
Le phare de Kérouan, non. Alors, le phare de Kérouan, lui, ça a été le phare le plus longtemps habité.
Le phare breton ?
Le phare breton. Est... on l'appelait le phare et le Versailles de la mer, le phare de Cordouan.
C'est la pointe du Raz,
la pointe du Raz.
De la pointe du Raz.
La pointe du Raz, non.
De Fresnes.
Mais non.
De Fresnes, non.
C'est dans l'île de Ouessant, non ?
Non, le phare.
L'île de Saint.
Il n'est pas dans une île.
Non. Si, il est dans une île.
L'île Dieu ?
Non.
Le phare de l'île de Saint ?
Non. Il est sur un îlot dénommé l'île. Ce que plus personne n'est parmi nous, l'île.
L'île
des jeunes.
L'île Vierge.
L'île Vierge. Bonne réponse de Franck Ferrand. Faut que je donne des indices, hein. Et j'ai au téléphone monsieur Louis Causan, qui est le dernier gardien de phare, qui vient de publier un livre réédité d'ailleurs, Un feu sur la mer. Bonjour monsieur Causan.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Un feu sur la mer, c'est votre témoignage d'un métier disparu, parce que vous êtes à la retraite, j'imagine, aujourd'hui.
Oh bah oui, ça fait un moment déjà, oui.
Et où est-ce qu'était votre phare à vous ?
Alors moi, j'ai surtout travaillé dans les phares d'Ouessant, enfin autour d'Ouessant, hein, la jument, Quéréon, dont vous parliez tout de suite, et puis le phare des Pierres Noires, voilà.
Et le phare d'Armen, celui-là, alors, c'est un phare isolé, paraît-il, voilà. Très très compliqué, c'est vrai ?
C'est Armen, c'est le phare avec une immense majuscule, c'est le phare absolu parce qu'il est loin de tout, il est petit, il est étroit, vous savez, il y a 1m60 de rayon à l'intérieur pour habiter.
Oh là, il y a eu des drames.
Avant tout. Et donc c'est un phare, c'est le phare cher au cœur des gardiens que nous sommes. Quoi.
Et est-ce que comme dans le film The Lighthouse, quand on tombe sur un copain pétomane, c'est embêtant?
Ouais, c'est embêtant. Ouais, bah, ça m'est pas arrivé, hein, mais j'ai pas non plus entendu tellement de témoignages comme ça. Mais bon, il faut savoir qu'on a quand même de l'air, hein, malgré bien qu'on soit enfermé dans des tours.
Oui, puis vous faites pas des soirées cassoulet, quand même.
Si, quand même, mais bon.
Est-ce que vous irez voir ce film alors?
J'ai vu la bande-annonce et puis effectivement, j'irai le voir. Je pense que j'irai le voir parce que ça m'intéresse quand même. C'est sûrement. J'aime bien le cinéma en général, donc voilà.
Alors le film s'appelle The Lighthouse, il sort aujourd'hui et votre livre à vous, c'est Un feu sur la mer. J'ai d'ailleurs trouvé, grâce, il faut le dire, à la presse régionale, grâce à Ouest France, voilà, un article sur votre papier. Vous êtes barbu comme un gardien de phare, hein, j'ai vu.
Oui, voilà.
Comme un loup de mer.
Comme les dinosaures, vous savez.
Vous étiez gardien de phare de père en fils.
Sauf mon père, mais de génération en génération, depuis 1806 jusqu'à 1952, il y a eu...
Alors, dans l'article, ils disent de père en fils depuis 1806.
Oui, c'est ça, c'est vrai, mais sauf que mon père, justement, a été le seul qui a dérogé à la règle.
Qu'est-ce qu'il faisait, votre papa?
Mon père était marin.
Ah oui. Il tournait autour du phare et il faisait des appels. Merci en tout cas pour votre témoignage, monsieur Causan. Une question zoologique pour monsieur Baffy et pour Ophélie Janssen. Ça doit être la sœur de Jean-Philippe, j'imagine. Elle habite Paris 18e. L'oiseau pluviant a une drôle de façon de se nourrir. Comment se nourrit-il, l'oiseau pluviant?
Il retourne des pierres?
Il retourne des pierres? Non.
Il est limicole,
il boit l'eau du ciel.
L'eau
de la pluie.
L'eau de la pluie. Il est comme ça, il vole, bouche ouverte.
Il ouvre le bec et lof.
Mais ça ne nourrit pas, ça, l'eau de la pluie.
On croirait-vous chez Flash?
Ah ben attendez, quand il y a les frites gratuites.
D'ailleurs, il est interdit de jeter de la nourriture, je crois. Hein.
Bernard Mabie, à 14h, il est chez Flinch, à 16h au bistrot romain, tout ce qui est à volonté.
Même en zoologie, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Est-ce qu'ils volent de la nourriture aux autres?
Oui, voler, c'est pas le mot.
Il fait régurgiter.
Il mange les restes, c'est un charognard.
Il mange les restes, ça c'est vrai. Il peut avoir les pieds dans l'eau, dans le Nil, par exemple. Vous voyez,
il est
souvent égyptien, le pluviant.
Il
mange les trucs sur les crocodiles.
Ah, il nettoie les hippopotames.
Il nettoie les dents des crocodiles.
Il mange entre les dents des crocodiles.
Voilà.
Bonne réponse de Bernard Mabie et Stevie Boulet.
Ah, c'est le vendredi noir pour moi. Hein.
L'oiseau pluviant, il pourrait manger entre vos dents de devant, hein, Stevie.
Oh non.
Ah ben, il y a la place.
Monsieur Baffy, vous m'avez quand même déçu sur l'oiseau.
Et moi, je me déçois tellement parce que je le connais le pluviant, mais c'est
j'ai passé des semaines à essayer de trouver.
C'est très gentil, je vous en remercie.
Une question zoologique.
Et là, j'ai rien appris parce que je le connaissais. Non, ouais. il n'est pas très gros.
Une autre question pour Juliane Badaraco qui habite au Guignac. C'est au Gignac, c'est en Dordogne. Quand vous esquimotez, que faites-vous?
Quand c'est vous en canoë-kayak, c'est qu'on met la pagaie du canoë-kayak.
C'est qu'on se retourne en canoë-kayak.
Excellente réponse collective. Bravo Roselyne Bachelot et bravo Florian Gazan. Alors maintenant, je vais poser une question théâtrale.
Que c'était quand on refusait de se faire sucer par un esquimau.
Mais Bernard,
on sent le vieux fantasme là.
Faut jamais refuser de se faire sucer là-bas parce qu'on peut attendre 6 mois avant d'avoir une nouvelle nuit.
Oui, si quelqu'un te dit la nuit prochaine.
Alors une question théâtrale maintenant.
Oui, une question théâtrale puisqu'on a quand même ici un grand acteur, Jean Benguigui, qui est quand même...
Un acteur?
Non, mais c'est vrai, un acteur. Oui, mais un acteur qui a fait aussi bien du théâtre privé que du théâtre public, quand même. Hein. Il a appartenu à la troupe de Monsieur Chéreau, Jean Benguigui, rappelons-le. Et puis, bon, après, il est passé de Chéreau à moins cher.
Non, plutôt plus cher.
C'est vrai, oui. Et là, évidemment, il s'agit de retrouver le titre d'une œuvre. Œuvre dans laquelle les parents ont perdu leurs jambes lors d'un accident de tandem et leur fils est aveugle et paraplégique.
Oh, sympa,
oh, non, non. Oh là là.
C'est un vaudeville.
Le Téléthon.
C'est un fédo ?
Ce n'est pas un fédo, non.
C'est un Beckett. C'est un Beckett.
Pardon ?
C'est une pièce de Beckett.
Une pièce de Beckett.
En attendant Godot.
En attendant Godot, mais non.
Oh les beaux jours,
non.
Fin de partie.
Fin de partie. Bonne réponse de Jean Bendigui. Ça, c'est bien. Une question pour Nassim Mellal, qui habite Montmorency, c'est dans le Val-d'Oise. Si vous lisez l'Escalafon, quel classement pouvez-vous y découvrir ?
C'est la corrida.
Les matadors.
C'est la corrida. Des matadors. C'est les classements des matadors.
Le classement des matadors. Bonne réponse du couple Benguigui-Bachelot. En effet, c'est le classement annuel des toreros établi d'après le nombre de trophées, oreilles et queues décernés à chacun au cours de la saison. Bravo. Vous avez déjà vu ça, un torero qui part avec les oreilles et la queue ?
Ça se fait pas en France, mais ça se fait en Espagne. Rare, ouais.
En Espagne, vous êtes allé alors ?
Non, je ne vais plus à la corrida car c'est un spectacle que je réprouve.
Mais rassure-moi, tu vas toujours dans les partouzes.
Non plus.
Ça doit faire drôle dans une partouze, tu tombes sur quelqu'un que tu connais.
C'est pour ça que moi, je partouze pas s'il n'y a pas des masques. J'ai trop peur de tomber sur quelqu'un de ma famille. Ça m'est déjà arrivé.
Sur votre femme ?
Sur ma mère, figurez-vous. J'étais outré, elle m'a dit « Mais mon Dieu, si on m'avait dit qu'un jour tu repasserais par là
ah !» Oh, t'es dégueulasse.
Oh, quelle horreur.
Oh, c'est horrible. Oh non, Laurent, non.
Bernard, c'est quoi le plus grand... C'est
des questions... J'en ai fait des cauchemars.
C'est des questions qu'on n'ose pas se poser, mais entre amis, on peut se dire. Bernard, c'est quoi le plus grand nombre avec qui vous étiez ?
Déjà avec lui, ça fait 8. Ouais.
Mais en partouze, dans un club de partouze ?
Ouais. Non, je veux dire, dans votre lit, peu m'importe, mais...
Oh, 4.
4, vous avez fait ça
quand même ?
4, 5, oui.
Ah bon ?
Mais c'est, il était
tellement
mesure,
bourré, quoi. 10.
Et oui, mais comment elle pouvait monter dans le lit alors que tu y étais déjà ?
Oh. Mais non, mais quand on était jeune, on faisait ça, effectivement.
Ah oui, 4, 5 et
vous Laurent, c'est votre record, vous ?
Non, moi, non. 3 une fois, parce que je suis tombé sur des jumeaux.
On en a
vu la gueule de l'homme. Ils ne pouvaient pas faire autrement, ils étaient six à moi.
Ah, quelle horreur.
Ils lui ont fait le coup de la corde à linge.
Ah, ben ça.
Je sais pas, ils étaient attachés de direction, je les ai rencontrés.
Viens, six à moi, j'habite chez une copine.
Et vous, Stevie, alors ?
Notre très classique 2.
Très classique 2.
On va s'embêter avec toi.
C'est décevant. Hein.
Oh non, il y en a assez pour 4.
Dites, vous savez que j'ai dit tout à l'heure que j'avais vu la Joconde dans sa cuisine, mais quand même, il m'a fait visiter toute la maison. J'ai mis un pied dans sa chambre.
Alors
pas les deux, j'ai pas osé. Et ben, Bourriquet est toujours là.
Non.
Vous connaissez pas Winnie l'ourson ?
Si, ça me dit quelque chose.
Et Bourriquet. C'était mon doudou. Quand j'étais petit.
Mais c'est dans tous les livres, Roselyne, maintenant.
Ce genre d'émission.
Oui, enfin, oui, c'est vrai. Ouais. Mais il disait peut-être la presse, la dame.
Ah. Bah, vous avez quoi sur votre lit, vous, Roselyne ?
J'ai une couverture en cachemire.
Oh, sorry.
Oh, j'en étais sûr, elle est pétasse.
Sur un dessus de lit en soie. Voilà.
Il n'y a pas une poupée, un objet, quelque chose ?
Bon, non.
Elle a un dessus de lit en peau d'ex.
Mais quand vous êtes sur votre lit avec la soie, vous glissez pas ?
Non,
elle met du velcro.
Elle a des crocs.
Elle s'accroche.
Et avec sa moustache, ça attache. Je vous le dis d'avance, d'ailleurs, c'est une citation qui nous vient de l'étranger. Elle est américaine, cette citation. Mais je vous rassure, elle a été traduite, c'est mieux pour mon accent. Qui a dit... Il est inutile pour un mouton de militer en faveur du régime végétarien aussi longtemps que le loup sera d'une opinion différente.
Écrivain ?
Alors un écrivain, effectivement.
Américain ?
Scénariste, romancier
Vivant
et dramaturge.
Vivant ?
C'est récent, oui.
Alors quelqu'un qui est mort en 1973.
Il est connu surtout pour les pièces.
Qui fut Oscar du meilleur scénario original et prix Pulitzer aussi.
C'est pas Tennessee Williams ?
Tennessee Williams, non.
C'est pas Truman Capote ?
Mais il y a un William dans son nom quand même.
Et son prénom était William ?
Son prénom était William.
C'est pas Shakespeare, mais bon.
Ce n'est pas Shakespeare. Et on lui doit des œuvres que vous connaissez sûrement, puisque par exemple, 5 de ses pièces ont été adaptées au cinéma. Pique-nique, par exemple. Bus Stop ou Arrêt d'autobus.
Oh là là,
Dark at the Top of the Stairs.
Alors l'académicien.
Dark at the Top of the Stairs.
Oui, ça, c'est
incredible.
Des films. C'est des films avec Marilyn Monroe.
Il fait nuit en haut de l'escalier.
Eh ben oui, c'est pas mal quand même. Hein. Arrêt d'autobus, pique-nique. Les loups et l'agneau, d'ailleurs, à mon avis, cette citation vient sûrement de cette pièce.
Probable, oui.
Et la fièvre dans le sang aussi. Splendor in the grass.
C'est, pas... c'est la fièvre dans le sang.
C'est pas William Wyler qui était metteur en scène.
William Wyler, non. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité ici aux Grosses Têtes.
Est-ce que vous pensez qu'on connaissait son nom?
Ah bah, j'espérais...
On connaît son
nom. Est-ce qu'il a un nom typiquement américain?
J'espérais que l'académicien français saurait...
L'Académie française ne s'occupe pas des Américains. Oui. Quand même, là, vous lui demandez beaucoup.
Ah bah oui, je lui demande beaucoup.
Au contraire,
mais...
T'es sûr que tu t'es pas fait rouler? T'es sûr qu'il est académicien?
Ça, on se demande.
Ah bah, il bosse peut-être juste au chiffre en lettres.
William Saroyan?
Pardon ?
William Saroyan ?
Non, non. D'ailleurs, il a une étoile sur le fameux Walk of
Fame.
Ouais,
ah oui, mais enfin, bon.
Mais pas Hollywood, à Saint-Louis.
Ah oui, d'accord.
Ah bah oui. Okay, oui. Oui, dans le Missouri, mais...
William Texas Ranger.
C'est Walker.
William Texas Ranger, oui, très bien.
C'est Walker Texas Ranger.
C'est bien essayé.
Non, mais... William Faulkner.
Non, non, William Faulkner, non, mais...
William L'Emergie.
C'est vrai que c'est des pièces, des pièces qu'on connaît, hein, quand même, la fièvre dans le sang, vous vous rendez compte ?
Non, non, on connaît la chanson.
William Tucker.
Arrêt d'autobus, bus stop avec Marilyn Monroe. The Dark at the Top of the Stairs qui traite du
dark. Ça, c'est
The Dark
celui-là.
At the Top of the Stairs.
Ah, celui-là, c'est un truc de chez Stana. William Stana.
Et l'Oscar du meilleur scénario qu'il a eu, c'était pour La fièvre dans le sang. Splendor in the grass.
Donc, splendeur dans le gazon. Ouais, ça n'a rien à voir.
Oui, non.
Est-ce que ça veut dire quelque chose, ce mot anglais, par exemple ?
Non,
ça ne veut rien dire.
Non, c'est plutôt genre un sigle chez nous, vous voyez, plus qu'un nom.
YMCA.
Non,
pardon, je me
prononce. RAT. RATP.
Non,
A-N-P-E.
Non. Non, mais c'est pas grave, on va donner 300 euros. C'est bien de temps en temps d'apprendre un nom aussi.
Avant Noël, c'est
et
très
puis
bien.
Je suis ravi d'apprendre le nom d'un auteur très connu aux États-Unis.
William Pitt.
William Pitt.
William Pixel.
Je sais pas, j'essaie.
J'ai dit que c'était une abréviation, mais j'ai pas parlé de la vôtre.
Quelle est la première lettre?
C'était William Inge. I-N-G-E. Ah, William Inge.
J'ai jamais entendu ce monsieur.
300 euros pour monsieur Leroy de Trouvy dans le Nord.
Bravo, monsieur.
Alors là.
Question qui nous emmène à Mazamet. Je ne sais pas si vous connaissez Mazamet. C'est dans le Tarn, Mazamet, pas loin de Toulouse. Hein. Il y a à peu près, on va dire, 10 000 habitants à Mazamet. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, évidemment, c'est les plus anciens qui nous écoutent qui peut-être pourront répondre à cette question. Mais vous étiez pour la plupart, pas peut-être monsieur Janssen, mais pour la plupart né en 1973. Hein? Mais en 1973.
À peine.
En 1973, la ville de Mazamet a étonné tout le monde parce qu'on y voyait les gens allongés dans la rue. Pour quelle raison les gens étaient-ils couchés par terre en 1973 dans la ville de Mazamet?
Pour manifester contre le nucléaire, non?
Pour manifester contre le nucléaire, non.
Il n'y avait pas l'histoire de barrage qui devait être construit, non?
Alors, de barrage, non.
Est-ce que ce n'était pas une prison?
Pour une prison, non.
Le choc pétrolier.
Il s'opposait à quelque chose, c'est ça?
Il s'opposait à rien du tout.
Une usine qui fermait, non?
Une usine qui fermait, non.
Ah, ce n'était pas une revendication.
C'était pour regarder une éclipse.
Pas du tout.
Contre un médicament.
J'ai la photo, là, c'est assez étonnant.
C'était le livre des records.
Alors, je ne vous dis pas, évidemment. Alors, à l'époque, on dit qu'il y avait 16 000 personnes. Oh. Alors, je ne vous dis pas qu'il y avait 16 000 habitants de Mazamet. Je ne sais pas si on dit Mazamet-Tois ou Mazamet-Tan. Ou...
C'est Jalabert qui est de
Mazamet. Je sais. C'est les morts sur les routes de France.
Expliquez.
Eh bien, les gens, à un moment donné, ont manifesté en disant « Il y a tellement de morts et on ne se rend pas compte, c'est abstrait, qui sont des
mais
accidents. »
Mais comment vous savez ça ?
Eh bien, parce que, je me souviens de ces gens. J'en ai tué beaucoup. Je me souviens de ces gens.
Ton chauffeur. Beaucoup, hein, oui.
C'est une excellente réponse d'Ariel Dombal. Alors là, ça... C'est une question pour laquelle j'avais parié un chèque RTL pour Mme Paulet, parce qu'il faut quand même se rappeler. Il y a tellement pas de rapport entre les gens allongés à Mazamet et la sécurité routière, mais oui.
Et pourquoi Mazamet ?
Alors, on avait
choisi... C'était une ville qui avait le même nombre d'habitants que les Mordes.
Exactement. En fait, ça représentait exactement le même nombre de tués sur la route par an que le nombre d'habitants dans la ville. Donc, on avait demandé aux habitants de Mazamet de tous se coucher par terre pour représenter...
Il y en avait 16 000
Voilà.
Il y
avait 16 000 morts à l'époque.
Et oui, 16 000 morts par an. Oh, c'est la sécurité routière qui avait choisi une ville qui correspondait au nom.
Et bien maintenant, il y en a combien?
4 000
dans ce alors,
beaucoup moins. Beaucoup moins.
Si je vous en parle, c'est parce qu'en tout cas, il y a un nouveau slogan de la sécurité routière qui vient de sortir. C'est
prenez le vélo.
Non, pas prenez le vélo. Vivre ensemble, c'est le nouveau slogan de la sécurité routière.
Vivre ensemble dans l'au-delà,
vivre
alors.
Non, c'est-à-dire... Mais non, c'est-à-dire respecter les autres.
C'est ça, d'ailleurs.
Sauf les trottinettes.
Vous-même, vous avez fait de la pub à une époque pour la sécurité routière.
Eh bien, dans les années 70, c'était le début du port de la ceinture obligatoire.
Vous avez la fermée.
Et moi, j'ai fait... Mais à l'époque, mon chéri...
Ah oui, c'est vrai. Oui.
En ville aussi, un petit clic vaut mieux qu'un grand claque.
Voilà.
C'est ça que vous avez fait.
C'est ça que j'ai fait. C'était Thierry, l'ermite, qui me la mettait, la ceinture. Et il me disait, je vais vous faire un petit clic. Et je lui disais, vous voulez une claque?
Quel texte.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Et après, il enlevait sa ceinture et il vous la mettait aussi.
Après, c'est ma vie privée, le reste.
Savoir conduire, c'est savoir vivre. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Voilà des slogans que vous connaissez de la sécurité routière. Fumer du cannabis est illégal. Sur la route, ça peut être fatal. Trajectoire coupée égale vie brisée. Vous rouliez juste un peu vite, vous l'avez juste un peu tué. Oh, ça, c'était...
Ça, c'est horrible.
Ça, c'est terrible.
Ah, c'est efficace,
vous
ça.
Vous rouliez juste un peu vite, ça aurait pu être...
Et pas vous écriviez un texto, vous iriez l'expliquer à sa famille ou je sais pas quoi, un truc comme ça.
L'alcool brisait cette habitude avant qu'elle ne vous brise. Il y a eu évidemment le célèbre, très célèbre, boire ou conduire, à vous de choisir. Et puis aussi, alors, ça, c'était assez tendancieux. La vitesse s'est dépassée. Mais alors, c'est vrai qu'il fallait le prendre au participe passé, dépassé, parce que si vous mettiez ça à l'infinitif, la vitesse est dépassée, c'est
la
dépassé.
La ligne jaune.
Vous voyez celui-là, ils n'ont pas dû le garder longtemps, à mon avis.
Non. Et inverse, ça va, c'était les...
Bonjour les dégâts, mais ça, c'est pas...
Ça, c'était pas la sécurité routière.
Ça, c'était
contre sobriété. L'alcool. En revanche, il y a eu les gilets jaunes, c'est moche, ça ne va avec rien, avec mais ça peut vous sauver la vie.
Ça, c'est Karl Lagerfeld.
Avec Karl Lagerfeld, voilà les slogans.
Ça, c'est dépassé aussi.
Hein. Oui. Ça a bien marché, ça.
Karl Lagerfeld n'est plus là, mais les gilets jaunes, eux, ils se sont reproduits. Oh, encore une question à laquelle M. Gazan devrait répondre facilement parce qu'il suit l'actualité, contrairement aux autres. Nathalie Werner, qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin, espère tout de même un chèque RTL. On entend de plus en plus souvent ces jours-ci le nom de Jean-Pierre Farandou, mais qui c'est ?
Ah bah c'est le nouveau patron de la SNCF.
Et ben voilà, bonne réponse de Florian Gazan.
En même temps, il répond tellement vite qu'on n'a même pas le temps de réfléchir.
Non mais
c'est ça qui m'arrange, je t'avouerai.
Je suis sûr que vous en étiez resté à M. Pépi, qui était le patron précédent de la SNCF, vous savez, qui avait un œil qui regardait les rails et de l'autre les vaches. Et maintenant, c'est M. Farandou qui lui a... Qui, je crois, a une petite coquetterie dans l'œil, lui aussi.
Ah oui,
vous pareil, l'avez remarqué,
il a pareil. Et moi, parce que je suis sensible à ça, j'aime bien ça, je trouve ça mignon.
Moi aussi.
Et il a une petite coquetterie aussi.
Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il faut loucher pour être président de la SNCF.
Celui qui l'a recruté, il doit être comme ça.
Un œil sur la CGT, un autre sur Sudrail. Ce qui est sympa, vous avez vu, c'est que la directrice, parce qu'il y a un directeur de la SNCF, mais il y a une directrice de SNCF Voyage, elle s'appelle Mme Picard, et elle a dit... Plus de la moitié des voyageurs partiront pour Noël. C'est sympa, mais l'autre moitié...
partiront pas.
C'est dingue. Mais... Ils seront surgelés.
Ça dépend comment on voit les choses, vous voyez.
Donc, Pierre Farandou,
il a la réponse. Elle a la réponse.
Ils seront surgelés, les autres, en attendant.
En tout cas, bravo, Gazan, d'avoir retenu le nouveau nom du patron de la SNCF. Fallait le faire.
Farandou, c'est mignon.
Comment ça se passe, Florian, quand il est vraiment avec des gens très cultivés?
Je les invite jamais tous en même
la
temps.
La question, c'est à quel
il
point...
Il y a toujours un mec intelligent et cinq cons. Hein.
Non, mais je vous remercie parce que je me demandais tout le temps comment vous faisiez le mélange. Mais comment il choisit?
Non, c'est soit Gazan, soit Franck Ferrand, soit Marc Lambron. Je ne les mets jamais tous ensemble, vous voyez.
Oui, bien sûr.
Parce qu'autrement, alors, il me faudrait 55 questions par émission, vous voyez.
Moi, la question que je me pose, c'est quand vous prenez d'abord Florian, vous vous dites, mais c'est quoi les cons que je vais mettre autour de lui? C'est ça.
Bah, par exemple, là, pour la question suivante, et ce sera intéressant pour Annie France Moglia, qui habite Valréas, dans le Vaucluse. Francis Blanche, ça. Ah. Vous qui êtes une grande humoriste, chère Charlotte de Turquen.
Et Turquen. Un peu vieille.
Vous connaissez Francis
Alors
Blanc.
Alors toi, Karine, t'es exactement comme Valérie. Je remarque, on vous fait une petite vanne et vous attendez patiemment 5 ou 6 questions et là, paf, Vous nous mettez la gueule. Pupice, là.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, non. évidemment, qui ne connaissent pas forcément Francis Blanche, c'était un grand acteur de boulevard, de cinéma, Papa Schultz, par exemple, dans les feuilletons télévisés, mais aussi, évidemment, un grand auteur. Et justement, Francis Blanche nous a laissé en 1948 quelque chose dont tout le monde se souvient encore. Quoi non ?
Il nous a laissé. Chanson ?
Une chanson, oui. Quelle chanson, donc, ça revient à dire ça, ouais. Francis Blanche a pu écrire.
Que tout le monde connaît.
On ne parle pas de la musique, hein, on parle des paroles d'une chanson que tout le monde connaît encore aujourd'hui.
Il a écrit pour une
souris verte.
Une mais, souris verte, non.
Mais même les petits-enfants, même les enfants connaissent cette chanson.
Les enfants, oui aussi, les adultes et les enfants.
Petit Papa Noël. L'international.
Pardon.
L'international.
Oh, l'international par Francis Blanche, oh. Alors là.
Mais petit c'est lui Papa qui Noël
Petit Papa Noël, non.
C'est lui qui a écrit les paroles.
Pardon.
C'est lui qui a écrit les paroles ou c'est lui qui l'a interprété?
Alors, on va dire qu'il a écrit les paroles en français d'un succès qui existait déjà à l'international.
Ah, bah, oui.
Ah.
Une chanson de Noël.
Mais c'est vrai que, si vous voulez, la chanson française, les paroles françaises, en tout cas le titre, n'a rien à voir avec le titre original américain.
D'accord. C'est une chanson pour enfants?
Pour enfants, non, c'est une chanson pour adultes et pour enfants.
C'est une chanson de Noël
chantée.
C'est pas des
une chanson de Noël.
Plutôt une chanson de Noël. Oui.
Douce nuit.
Douce nuit, non.
Donc
non.
Pas drôle, pas forcément drôle.
Ah, pas drôle du tout.
Vive le vent.
Petit Papa Noël.
Pardon.
Vive le vent.
Vive le vent. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen.
Vive le vent. Vive le vent. Vive le vent d'hiver.
Hey,
qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts.
Hey
vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Goutte de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère.
Et je l'ai pris par Mireille Mathieu pour vous faire
évidemment. Évidemment.
C'est pour vous, Monsieur Platin. Ouais, je sais que c'est votre amie, Mireille Mathieu.
Elle chante bien. Quand
ah bah, puis à l'âge qu'elle a...
Ah non, elle n'a pas souvent vu les boules. Elle a le même âge que Charlotte. Hein.
Oh non, oh. Elle est plus âgée maintenant. Oui, je vous dirais.
Qui Charlotte,
elle est beaucoup plus jeune
que moi.
Il
paraît qu'elle ne se retient plus maintenant.
Ouais.
Hein.
Oh. Non, plus.
Elle fait vive le vent. Vive le vent.
Il n'y a qu'à Noël... Il n'y a qu'à Noël qu'elle voit des boules, Mireille Mathieu.
Elle n'est pas display.
Oh la pauvre.
Elle a chié sur toutes les vieilles.
Vive le vent d'hiver.
On peut pas la
Et bonne année, grand-mère.
Oh, non, mais... Moi, je connais mieux la version anglaise.
Ah bah allez-y, alors Valérie.
Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh.
Hey, waouh, voilà. C'est bien.
C'était très joli, mais c'était de l'anglais.
Ben oui, c'était de l'anglais.
Ah, c'était de l'anglais, j'ai pas reconnu.
Ah, oh là là. Les rivalités de femmes fortes, non, terribles.
Elles sont pas mal.
Les rivalités de femmes fortes.
Ah ouais, c'est combat.
Qu'est-ce que t'as dit, toi, dans le fond?
C'est combat chez Daxon.
Ouais. T'imagines si on se donne un coup de nichon?
Oh la vache.
C'est moi qui t'assomme.
Dans la boue.
Je savais pas qu'il y avait du sumo bien. Féminin. Hein.
Si vieille et encore nichon.
Mais pourquoi je viens? Mais pourquoi
mais
je viens?
Pas mal hein, les paroles de Francis Blanche. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches.
Oh, mais là, je trouve qu'il est un petit peu merdé, c'est sur le refrain. Quand même.
Qui souffle la romance qu'il chantait, petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le temps, vive le temps, vive le temps. Boucle de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère.
Grand-mère.
Voilà. Ça qui vous plaît pas, bonne année, grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête partout. La table est prête et on entend la même chanson. Est-ce
Vive
que tu crois qu'ils vont arriver en train? Une question culturelle pour Ahmed Kepchi. Mohamed Kepchi qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Qui était surnommé le cygne de Dircé, le cygne de Mantoue et le cygne de Cambrai?
C'est un sportif?
Non.
Il y a trois signes alors.
Alors il y a trois signes.
Le signe de Cambrai.
Le signe comme l'animal.
C'est un prédicateur. Hein.
Pardon.
Le signe de Cambrai, c'est un prédicateur.
Prédicateur, pas tout à fait.
Un devin.
Un devin, non.
Un devin,
un prêtre.
Un
prêtre.
C'est le signe comme l'animal.
Le signe comme l'animal.
Mais, alors remarque, c'est pas mal. Pour le signe de Cambrai, c'est pas bête.
Mais en principe, il suffira d'un signe.
C'est bien, Pierre.
Il y en a trois.
Au XVIIe siècle.
C'était un archevêque de Cambrai.
Ouais.
Oui, mais c'est pas Bossuet.
Il est pas si bête.
Pardon.
Bossuet.
Pas Bossuet, l'autre.
C'est pas faux.
Ah, l'autre.
Talleyrand.
Non.
Faucillon, Bondalou.
C'est incroyable, je ne comprends pas la question.
Bah non, je ne comprends pas.
Ni la réponse.
Ça, ça pourrait être en c'est islandais, si je ne comprends rien. C'est un...
bah, si vous voulez, il y avait quelqu'un qu'on surnommait à l'époque, effectivement, on est au XVIIe siècle,
ouais.
Quelqu'un qui est mort d'ailleurs, qui est mort en 1715, donc mort au XVIIIe, qu'on surnommait le cygne de Cambrai.
Ah, c'est un surnom.
On le surnommait le cygne à cause de son caractère doux et fuyant, en comparaison avec le caractère plus autoritaire et éloquent de son rival Bossuet, que lui, on comparait à un aigle.
L'aigle de Meaux.
Voilà, il y avait l'aigle de Meaux, c'était Bossuet, et le cygne de Cambrai, c'était...
Moi, je crois que c'était le Brie de Meaux.
Non.
Bah c'est l'autre, c'est pas Faucillon, c'est pas Bourdalou, c'est...
Un homme d'église, historien, oui. Théologien...
Richelieu.
Fénelon.
Fénelon. Bravo, voilà, monsieur Bénichoux. Voilà pour le cygne de Cambrai.
Bravo.
Enfin, bravo, bravo, on n'a qu'une réponse sur les trois pour l'instant.
Ah, mince.
Il vous manque le signe de Dircée et le signe de Mantoux maintenant.
Oh, le signe de Mantoux. On va pas se faire toute la basse-cour là.
Le signe de Mantoux.
Et où Mantoux ?
Est-ce que c'est un cycliste, le signe de Mantoux ?
Ah non, c'est beaucoup plus vieux que ça, ça date d'avant Jésus-Christ, le signe de Mantoux.
Il y a pas de tournefond.
Ah, c'est un.
Avant Jésus-Christ ?
C'est un écrivain.
Alors, un écrivain, et effectivement, latin. C'était une référence, là encore, à son élégance, à sa poésie et à la ville du nord de l'Italie dans laquelle il est né.
Un auteur ?
Un poète des plus latins, des plus célèbres.
Ah, oui.
C'est pas Pétrone. C'est
pas Pétrone.
Non, non, parce que Pétrone, c'est plus récent. Vas-y.
Si je vous cite ses œuvres.
Un poète italien ?
Les Géorgies.
Oui, Virgile.
Virgile. Virgile. Bravo. Virgile, c'est le signe de Mantoux.
Allez le dire, Fabrice.
Ah, les Christ.
Bah, maintenant, il vous manque le signe de Dircée. Donc.
Alors, c'est grec, ça ?
Alors, Dircée...
Est-ce que c'est grec ?
Dircée, c'est grec.
Ah, oui, ça fait grec.
Donc, on le connaît.
Là aussi,
c'est un auteur ?
C'est avant Jésus-Christ.
Ah, encore ?
Homère.
Pythagore.
Non, et c'est un des plus célèbres poètes lyriques...
Ésope.
...grec. Non, pas Ésope.
Apollodore.
C'est bien, non. Mon petit Stevie, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui était grec, qui est donc né près de Thèbes, qui est mort à Argos en 438 avant Jésus-Christ.
Ah, Balise. Balise Argos.
Non.
Pas lui.
Donc, une forte personnalité, profondément attachée à la religion traditionnelle, à l'aristocratie grecque.
Ça m'agace.
Victor Hugo l'évoquait parfois.
Ulysse.
Zénon.
Zénon, non.
Zénon. Zénon.
Il a le nom d'un roi aussi, enfin, ou d'un dieu ?
Non, grec. Alors à la limite, on va dire que son nom se rapprocherait plus. Alors là, je vais essayer d'aider les autres grosses têtes qui retrouveront jamais le nom de ce poète lyrique, donc grec. Son nom se rapprocherait plutôt d'un cirque, voyez-vous.
Un bouglione.
Grus.
Grus, non.
Pindare.
Pardon ?
Pindare.
Pindare. Bonne réponse de Marc Lambron.
Bien sûr.
Ils vont se foutre de ta gueule à l'académie, je vais te dire. Ah bah tu retrouves Pindare avec Pindare. T'es foutu toi à l'académie. Parce que moi je vais rentrer chez moi, ma mère qui est prof, elle va me dire tu fais des émissions avec des académiciens, c'est bien. Toi on te tire vers le bas, mon pauvre. Hein,
mais
t'es là.
Tu connaissais pas le cirque Pindare ?
Pindare, c'était chouette quand même.
Ah oui, oui.
Alors voilà.
Un grand élégiaque, oui.
Pardon.
Un grand élégiaque, un auteur en effet de poésie.
Ouais, de poésie ouais, ouais, ouais. Pindare, tous les patrons de cirque maintenant disent c'est un grand élégiaque.
Eh ben, grâce aux grosses têtes, vous saurez maintenant qui était le signe de Dircée, le signe de Mantoux et le signe de Cambrai. Stevie, on résume. Donc, le signe de Dircée, on vient de le dire. Donc,
c'est
Pindare.
Voilà, le signe de Mantoux.
C'est Fénelon.
Non.
Non.
Eh non, c'est l'autre.
C'est l'autre, merde, le premier.
Qu'est-ce qu'on a dit ?
Bossuet.
Non, Bossuet, non. Ah bah merde.
Virgile.
Ah, Virgile, voilà.
Voilà.
Virgile,
et l'autre, c'est Fénelon, le dernier.
Fénelon, pas
Fénelon. Fénelon.
Fénelon. Il n'y a pas d'accent.
Fénelon.
Il n'y a pas d'accent.
Voilà. C'est toi qui as un Fénelon.
C'est Fénelon, il n'y a pas d'accent sur le deuxième E.
Fénelon.
Fénelon, Virgile, Pindare.
Pas Fénelon, Fénelon.
Fénelon, oui, ben on a compris.
Oh, ils se feront jamais à notre culture.
RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là ? C'est à Bruxelles qu'Anne Lemaire, c'est son nom, Anne Lemaire se prépare à chanter, elle est en train de répéter, de chauffer sa voix. Bonjour Anne.
Bonjour Laurent.
Vous allez bien ?
Bonjour à vos chroniqueurs.
Bonjour Anne.
Que faites-vous dans la vie à Bruxelles ?
Oh, je suis employée administrative.
Bon, voilà, quelque chose de bien sérieux qui vous permet tout de même d'écouter les grosses têtes.
Oui, 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 en podcast souvent.
Mais... Et vous avez préparé une chanson pour tenter de piéger mes camarades qui vont devoir, évidemment, c'est le principe, retrouver le nom de l'interprète. Et évidemment, si mes camarades sèchent, vous allez gagner une semaine au ski. C'est pas mal, ça.
Ah, Anne. C'est super.
On vous écoute à mes camarades de retrouver le nom de l'interprète.
Des petits enfants qui tombent du balcon. Toute leur enfance défile dans leurs yeux. Elle est courte et ils s'ennuient même un peu. Alors ils regardent ce qui se passe autour d'eux.
Elle n'a pas l'accent belge hein, quand
ils
elle chante.
Ils volent devant les fenêtres. Ils disent bonjour à tous les locataires.
Attention, vous allez pouvoir y aller après le premier couplet.
Alors, Marie-Myriam. Marie-Myriam.
Marie-Myriam, non.
Bobby Lapointe. Bobby Lapointe.
On n'a pas le droit de poser la question, c'est un homme ou une femme.
Alors,
hein.
C'est fini là, la chanson. Ah, c'est fini.
Ah, mais ils sont tombés du premier étage, c'est tout.
C'est pourquoi je vous disais qu'elle allait gagner, parce que la chanson fait 30 secondes.
Ah oui.
Ah, c'est pas Cormier.
C'est gagné alors.
Super, merci beaucoup.
Alors, ah oui. Elle a été beaucoup plus maligne que les autres.
Mais oui, c'est
bon,
ça.
Ça marchera pas deux fois, attention.
Ah
hein.
Non, non.
C'est parce que c'est vous, Anna. Mais quand j'ai vu effectivement que la chanson avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers seulement, c'est-à-dire que c'est même pas ce que boit Péroni pendant une journée.
Ah. Hein. Elle est pourtant de quelqu'un de très connu.
C'est pas Corbier.
Ah, alors,
c'est pas Corbier, non.
C'est Jacques Brel.
Et c'est Barrier.
C'est un chanteur très très connu.
Tino Rossi.
Non, écoutez-le.
Les petits enfants qui tombent du balcon.
Jacques Higelin.
Toute leur enfance défile dans leurs yeux.
Ah, mais c'est Bachung. Bachung,
oui. C'est Alain Bachung.
Oh là là,
écoutez,
oh, c'est formidable.
Même un peu. Alors ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Ils s'échappent. Il vole devant les fenêtres.
Elle est incroyable cette chanson. C'est les enfants qui tombent du balcon.
C'est Bachung, première version. Ouais, enfin, hein, première époque.
On les invite à venir prendre un verre.
Non mais la chanson a du sens quand même. Ah ouais, bon. On imagine les enfants qui tombent du balcon, les locataires d'en dessous qui les invitent à prendre un verre. Ils disent d'accord, mais il ne reste qu'un instant. Bah oui.
Ouais.
La chanson avait été proposée à Mike Brandt et puis bon, finalement...
Qu'est-ce qu'il a écrit ? Il n'a pas eu le temps de la chanter.
Qu'est-ce qu'il a écrit, c'est Bergman ?
Alors, c'est une chanson dont l'auteur et le compositeur est Alain Bachung lui-même. Oh, ouais. Et c'est lui qui vous envoie à la neige, Anne. Bravo !
Merci beaucoup, je suis vraiment super contente.
Ah bah allez, c'est gagné. Vous arrêtez d'embêter Gérard Jugnot,
Yoann. Bah, Gérard, il est comme moi, il me ressemble.
Non, c'est pas ça. Arrête de te comparer à moi.
Mais Gérard, t'as été puceau aussi à un moment donné.
Oui, il y a très longtemps. J'ai hâte de voir la gueule du gosse. Oh là là là.
Je suis sûr que t'as commenté. Vous avez commencé tard, je pense.
Mais
oui.
Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ?
Il est inouï. Inouï. C'est vrai, Gérard, ça... Tu veux pas raconter un petit peu ?
Mais pas du tout. Il passe sa vie dans les caleçons des autres. Incroyable.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le sien.
C'est le Franck Ferrand de la quéquette. Hein. Ce mec est incroyable. Il sait tout sur tout. À ce
niveau-là. Tu veux dire qu'il parle de choses qu'il n'a jamais pratiquées ?
Alors attention, monsieur Ferrand, justement, c'est pour vous la question suivante et pour madame Aurore Sail qui habite Tours. La question, d'ailleurs, va nous permettre de parler de quelqu'un dont, j'avoue, je ne connaissais pas le nom, Flavius Odoacre. Flavius Odoacre, qui est mort en 493, j'ai même la date exacte, hein, le 16 mars.
De notre ère.
493 de notre ère, après effectivement. Jésus-Christ. Mais il est devenu, il faut le dire, gouverneur d'Italie et quasiment ce qu'on appelait patrice d'Italie à l'époque. Il est devenu patrice d'Italie en 476.
C'est-à-dire à la toute fin au moment de la chute de l'Empire romain.
Mais pour quelle raison l'histoire retient-elle le nom de Flavius Odoacre ?
Bah parce qu'il est le dernier.
Comment ça le dernier ?
Bah c'est la chute de l'Empire romain, 476. C'est
non,
la fin.
Alors il n'est pas le dernier, il est plutôt le premier.
Alors, il est le premier à avoir succédé à l'Empire romain. Donc
oui,
il
parce que c'est Romulus.
Donc, c'est Byzance.
Là, on est dans l'Empire d'Occident.
C'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'un premier ministre français, Fabius Odoacre.
Il est le premier, alors je ne sais pas moi, il était d'où, roi de Rome.
C'est à lui, le vase de Soissons.
Le vase de Soissons, ce n'est pas
non,
à lui.
Non, c'est l'époque.
Il succède à Romulus Augustule.
Oui, ça qui est le dernier empereur romain.
Voilà, c'est Romulus Augustule le dernier.
C'est le premier roi de France.
En 476. Non, lui, il obtient la gouvernance de l'Italie avec l'agrément du Sénat de Rome au nom de l'empereur d'Orient et il est reconnu comme ce qu'on appelait à l'époque.
Mais c'est quoi la question ?
Patrice, la question c'est pour quelle raison l'histoire retient cette date du départ du règne, enfin plutôt du début du règne de monsieur.
Mais parce que c'est la fin de l'Antiquité.
Son nom est devenu un nom
commun.
C'est
la fin de l'Antiquité, c'est le début du Moyen-Âge.
Le début du Moyen-Âge, bonne réponse de Franck Ferrand.
Ça dépend de quel côté on regarde, en fait.
Non, mais Franck, t'es écœurant.
Mais comment vous
il y a des questions que pour
Franck Ferrand. Mais il y a des questions que pour lui.
Oui. Ah, ouais. C'est une émission sur mesure.
Voilà.
Oh. Oui, mais il est gentil, Christine. Vous êtes exquis, vous avez une manière de parler.
Oh là là, non, mais arrête. Attention.
Non, mais il a une manière de compter.
Gérard, c'est bon pour toi, là.
Ça y est, je suis libéré. Je suis libéré, il va se taper, Ferrand.
Libéré, délivré.
À mon avis, il y a 3 places de cinéma pour la Reine des Neiges cet après-midi. Oh putain.
Mais comment vous faites?
Alors tu l'emmènes au cinéma aussi?
Mais oui. Mais quand vous êtes au restaurant et tout, vous parlez toujours comme ça quand vous commandez un plat.
Je parle
quand vous...
comment?
Mais non, mais vous avez. Ah non, vous êtes extraordinaire. Vous êtes en poulet. Vous êtes en poulet. Il y a la lumière qui sort.
En poulet.
Bonjour. Je voudrais un steak.
Ah, en poulet.
Et voilà, en poulet. T'as vu comme il parle notre ami avec ses mains et puis,
c'est sûr que vous êtes pas en poulet. Hein.
Mais comment vous l'avez recruté, Laurent? Comment vous l'avez recruté, Laurent?
Comment ça? Comment je l'ai recruté?
Comment vous l'avez repéré? Comment vous l'avez?
Tout le monde l'a repéré, Franck Ferrand, quand même. C'est un de nos meilleurs historiens. Et donc, on en manquait dans notre émission, quand même. Ça fait du bien de savoir.
Parce qu'Alain Decaux ne voulait pas venir. Et Dieu sait si on l'a réclamé.
Il était pris.
Quand vous avez pris Yann Riou, il manquait quoi dans l'émission?
Je suis tellement fier de faire partie de cette bande. Et comment vous faites pour être drôle comme ça?
Il l'a repéré dans un magasin Ikea en kit, mais il manque des pièces.
Je peux revenir au Moyen-Âge.
Est-ce que tu parles pendant l'amour ou pas, Bernard? Est-ce que t'es actif? Je sais que t'es actif, mais est-ce que tu parles? Est-ce que
ma femme parle pendant l'amour. Je lui ai écrit ce qu'il fallait dire au plafond. Alors j'ai écrit « C'est bon, vas-y ». Encore. Ah, mais on dirait Laurent Ruquier. Mais t'as pas honte de poser des questions si cons, ça.
Je suis sûr que t'es très très bon. T'es très très bon.
Mais arrête.
Parce qu'il cache pas son jeu. Il est comme il est. T'es rond, t'es bon, t'es.
Je dirais qu'il fait de la pub pour du fromage. Hein. Bon belle.
Il ne parle pas, il commente.
Il est ici comme au match de foot, Johan Rioux.